qui est la place de la émouna, traduction en français, la foi. C'est marqué, nous sommes des ma'aminim b'nei ma'aminim, des croyants, fils de croyants. Alors, dans quel cas exactement ça rentre? Dans quoi ça s'exprime? Est-ce qu'il y a de ça là-dedans? Maïmonide a fait compte des 613 mitzvot et ne parle pas de Emouna. En Torah, il est marqué, tu crois en Dieu, tu auras la foi en Dieu. Nulle part. C'est marqué via date. Tu sors aujourd'hui. Tu achèves que l'Éternel est tout-puissant dans la terre partout. Nécessité, une obligation de savoir. Il est vrai que le livre... comment il commence le mitzvot, du décompte des 613 mitzvot. Alors, Maïmonide cite les mitzvah Una. La mine, croire qu'il y a la couille richonne, qu'il y a là-bas, dans quelque part, une source première d'où tout provient. Mais ce livre-là, des conditions de mitzvot de Maïmonide, à l'origine, est écrit en arabe. Et les traducteurs ont traduit le mot croire, mais c'est faux. Le mot en arabe se dit attakad, et c'est un mot intraduisible, qui est quelque chose entre la croyance et la connaissance. Et bien, on va peut-être approfondir ce sujet. Dans les paroles de Chazal, on parle de Emouna, d'accord ? Et Ma'amin, il y a des règles de foi de Maïmonide, d'accord ? Donc, il y a des concernant de la foi. À la base, en tout cas d'après Maïmonide, d'après beaucoup de grands rishonim, le Rassag, et d'autres se sont évertués, démontrés comme quoi la Torah est d'origine divine. Et du moment que tu démontres, il n'y a plus de foi. Il y a une connaissance. C'est mathématique. C'est rationnel, c'est par A plus B. Il n'y a plus de foi. Où la foi s'exprime-t-elle? Elle est constituée de plusieurs parties. Rationnel. On a tendance à voir, on pense au cerveau, d'accord? La foi, c'est pas aussi du cerveau, mais on a tendance à évoquer qu'il vient du cœur. Le cœur, c'est un muscle, d'accord? Mais dans les cas où on parle du cœur, la foi vient du cœur. Tu vas pas dire à ta femme que tu es pour elle un amour énorme. L'amour, il est là, d'accord? Alors que dans le rien, c'est une pompe, d'accord? Vu que un fiancé envoie sa fiancée un cerveau avec une flèche, d'accord, il envoie un cœur. Donc on a tendance à dire que le sentiment du cœur, le travail de l'émouna. Je peux savoir que Dieu existe, mais la perception, la sensation, la relation, le sentiment, chaque mot que je dis, je sais pas, c'est pas des synonymes, c'est autre chose. Et le mitzvah d'aimer Dieu, ça c'est Emouna. Parce que je sais que Dieu existe, bon et alors? Est-ce que je crois, est-ce que je le vis, est-ce que c'est dans le quotidien, est-ce que c'est dans le vécu? Rationnel, bon, ça reste là-haut. Je sais que Dieu existe, aucun problème. La Torah est vraie, ok, mais je ne le vis pas. Et là est tout le travail. C'est marqué via data yom, dans aujourd'hui, tête. Après les versets, va chez vota el levavera. Tu ramènes cette idée à ton cœur. Là vient l'aimer. Rambam ne dira pas, il va écrire nulle part qu'il y a une mitzvah de Emouna. Nulle part. Mais il va parler de l'amour de Dieu, de la relation avec Dieu. Il dit que l'amour de ceux qui aiment Dieu peut arriver à un niveau plus haut qu'un homme qui est amoureux d'une femme à laquelle il pense toujours. Quand il boit, quand il mange, quand il va se coucher, quand il se lève, à chaque moment de sa vie, il y a une vie. Et qu'il est malade, maladie d'amour qui s'appelle maladie d'amour, comme c'est marqué dans Shir HaShirim, qui cholat ahava nikra lo shim ma'amour. Il y a des gens qui connaissent ça. Il y a qui, ça y est, depuis, il ne fonctionne plus, quoi. Il transpire et il est comme ça. Out. Plus que cela sera l'amour de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est Emouna. C'est-à-dire, il y a quelque chose dedans qui fait que je suis branché. Oui.
Emouna, c'est croire.
Est-ce que Emouna, c'est croire? Qu'est-ce que croire? C'est quoi croire?
Justement, c'est ce sentiment de...
Sentiment. Oui. Perception. Perception rationnelle, perception sentimentale. Croire, c'est sentimental. Alors, il faut être sûr. Dans d'autres religions, il y a des gens très croyants. Ils sont complètement sûrs. Ils n'ont pas de preuves. C'est pas rationnel. C'est que Emouna, que croyance.
C'est savoir.
La Torah dit d'abord tu sauras. Il y a des étapes. D'abord tu sauras. Tu commences par le haut, la tête. Surtout pas de croyance. C'est beau. Non, je veux pas. Ça me parle. Je veux pas que ça te parle. C'est vrai. T'as des gens qui sont fous de sorte de Dieu qui fait des bêtises à dormir debout. Mais on peut pas leur parler. C'est qu'ils sont complètement. Ils sont possédés, aliénés. Aliénés, possédés. Or, ça, il a coupé là, la raison n'existe plus. Il faut pas plus que c'est une bêtise. Oui. Je peux pas faire autrement. Le type, il est fou. D'accord? Donc tu as une capacité de croyance. Maintenant, pour pas qu'elle parte à tout azimut en erreur, pour pas se fourvoyer, la Torah te dit d'abord, tu sauras. Donc, de façon la plus froide possible, la plus rationnelle possible, tu vérifies, tac, 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 tac. En parenthèse, très, très somptueusement, nous sommes le seul à pouvoir faire la démonstration que nous possédons la vérité du Créateur du monde. D'accord? Celui qui gère le monde. Au quotidien. Les seuls. Une fois que tu as ça, ok, alors Dieu existe. So what? Là, il y a un travail. Israël Shamek Kodon Shamechad. Écoute Israël, l'Éternel est un. Ok, il existe. So what? Vavta. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, tout ton âme, tout ton. Il y a une mitzvah. Ça, c'est ce que nous on a. Mais dans les écrits de Chazal, c'est c'est la prière. La relation, le bitachon, c'est aussi Emouna croire. Bitachon, c'est-à-dire confiance en Dieu. Pas s'angoisser, parce que Dieu est là. Quoi qu'il y ait, quoi qu'il se passe, pas s'angoisser. Pas rester non plus dans le hamac, et ça va, Dieu pourvoira. Non, il faut agir. L'Arbétion disait, il faut s'occuper, mais pas se préoccuper. Les gens ont tendance à lier. Pas se préoccuper, alors ils ne s'occupent pas. Dieu va couper tout. Non, mon cher, tu fais rien, il n'y aura rien. Il faut s'occuper. Mais pas être préoccupé. Que Dieu est là. Et demande qu'on fasse, si je te doute, qu'on fasse notre comédie de montrer qu'on est en train de s'occuper, soit parce que c'est Dieu qui fait tout, et Dieu s'occupera du reste. Oui, Anthony.
J'ai l'impression qu'il y a un manque à combler aussi un intellectuel dans la foi, pas seulement sentimental, dans la compréhension qu'on a des choses. C'est-à-dire que à partir du moment où on sait que Dieu existe, c'est une chose, mais aller comprendre quelles sont ses applications et quels sont les liens qui sont faits dans le monde, là il y a un manque que notre raison n'arrive pas à combler. Et j'ai l'impression que si dans la foi intellectuelle, elle peut combler ce manque. C'est-à-dire, moi, ma raison, elle arrive à comprendre certaines choses, mais j'accepte intellectuellement qu'il y a des choses auxquelles j'accepte pas et que la foi peut combler. Mais qui n'est pas spécialement dans les sentiments, qui peut être aussi la compréhension de certaines mitzvot qui sont pas rationnelles, qu'on se dit, ok, nous, on voit le lien direct qu'il y a ici sur certaines choses qu'on accepte. Mais on se dit, ou les conséquences de nos actes, par exemple. C'est-à-dire qu'on va dire, ok, j'ai fait un acte, je sais que la conséquence de cet acte se reportera quelque part, mais moi, consciemment, je ne peux pas savoir où il va se reporter la conséquence de cet acte. Donc j'accepte qu'il y ait un dessein divin qui soit supérieur à...
Il est clair que ce que je parle de démonstration de véracité de la Torah, c'est de façon globale. On montre que tout ce package, c'est tout ce paquet-là, il est d'origine divine. Donc pourquoi ce détail? Pourquoi l'un? Pourquoi l'autre? Ça, c'est vrai qu'on n'a aucune preuve là-dessus. On ne sait pas pourquoi il faut que les tulines soient noires et carrées. Pourquoi il faut ce nombre de nœuds sur les tissus? Pourquoi un 6 à 4 coins? Pourquoi toutes les mitzvot du monde? Toutes. sans parler maintenant, comme tu l'as dit, des tenants et aboutissants qu'il y a dans notre âme, parce qu'on ne voit pas l'âme. Et la divinité, ok, Dieu existe, mais qui il est, comment il agit? Ça, c'est toute la Torah secrète, la mystique juive, qui parle de tous les mondes, la tuyauterie céleste, d'accord? Ça, on l'a reçu. On sait qu'elle est vraie, mais on la sait par démonstration, on va dire, extérieure. Pas que je comprends ce détail en soi. Je sais qu'il est vrai parce que ça fait partie de la totalité qui est vraie. Pourquoi ça? On n'a aucune idée.
Et pour comprendre ça, il faudrait connaître la totalité.
Pour comprendre quoi?
Pour comprendre le dessin, pour comprendre pourquoi ça va dans cette direction, ouais. Et bien celle-là, il faudrait connaître la finalité en elle-même. Mais Moshe ne peut pas savoir ça. Il lui a demandé, il ne peut pas montrer la fin du monde.
C'est certain. C'est certain.
Donc il y a quand même une certaine foi intellectuelle, c'est-à-dire, ok, on fait confiance.
Non. C'est comme si... je te fais une démonstration, d'accord? Donc toi, tu comprends pas, je vais te donner un exemple très très simple. Voilà. Voici mon mouchoir. Je vais le lâcher. Tu vas regarder une chose stupéfiante. Il ne va pas ni rester en lévitation, ni monter, il va tomber. Phénoménal. Comment ça se fait? Bon, on te dit, regarde, il y a une loi. L'attraction terrestre, la gravitation. On peut même calculer qu'au bord de la mer, chaque objet va tomber à une vitesse de 9,81 mètres à la seconde sur la planète Terre. D'accord? Et à cause de quoi? La gravitation. Il y a quatre lois dans l'univers. La première, quatre lois de base, c'est donc la loi de la gravitation. D'accord? Newton. Là, il semblerait que j'ai tout dit. N'est-ce pas? Un physicien te dira, c'est exactement ça. Ok, allons, next, le pas supplémentaire. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi au lieu de tomber, ça ne montrait pas? Pourquoi cette vitesse? Pourquoi? Enfin, il y a bien, je veux comprendre. Le monsieur n'a rien à comprendre, c'est comme ça. Attends, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Cette loi de gravitation universelle, elle est vraie ou elle est fausse? Elle est vraie. Tu peux faire un milliard de fois, c'est empirique, tu le fais 41 milliards de fois, ça marche. Donc c'est vrai. On envoie de maintenant, grâce à ça, on envoie des planètes, des satellites, des fusées sur la Lune. On se base là-dessus. Donc c'est vrai. Je peux savoir que la Torah est vraie totalement. Maintenant, pourquoi? Quand on a le pourquoi, alors il y a. On parle de certains pourquoi. Moi, on arrive au pourquoi, des pourquoi, et là, on rentre dans l'infini. Alors, il n'y a plus de pourquoi. Il y a la volonté divine. Alors, pour comprendre Dieu, il faut être Dieu. Un bonjour, on pourra comment comprendre pas mal. La Torah donne énormément, d'accord? Certains, en grandissant en Torah, entendraient les secrets, j'imagine. Moi, je ne me connais pas tellement, mais on peut savoir beaucoup plus. Mais, de toute façon, ça reste limité, parce que tu n'es pas Dieu. Là, ce qui est intéressant, c'est ça qui est très intéressant, c'est que, une fois que tu sais que c'est vrai, tu as deux biais d'action. Pour avancer dans ce domaine. Le domaine de l'étude, qui est donc au niveau rationnel, tu perfectionnes, tu commences à savoir plus. Mais ce qu'il y a dans la Torah, c'est qu'il y a aussi au niveau du senti. Là, rentre la partie Emouna. Parce que tu vois que ces choses-là, quand tu investis dedans, il y a un feedback au niveau de ton âme. Tu sens des choses. Il y a une perception de Dieu, il y a un accompagnement de Dieu, il y a une relation avec Dieu. Et là, c'est extrêmement bénéficiant quand tu sens ça. Qui n'est pas heureux quand... Il tourne en rond comme ça, sans avoir une chance de trouver un parking, et il fait une prière à Dieu, et tac, il trouve le parking. C'est un truc tout bête. Mais Dieu est avec toi. Et quand c'est beaucoup plus grand, et quand c'est quotidien, et quand c'est en relation vraiment, c'est pas beau ça. Et quand tu sens la sainteté de Dieu, et tu sens comment tu montes, tu descends en fonction de ton comportement, tu vois, t'es plus proche, t'es moins... Ça marche. Une fois, une pub... Quand dans les toilettes, ils mettaient un spray dans tout, en pleine nature, comme ça, dans les montagnes, ça marche. Ça, c'est Emouna. Ça répond, ça va dans ton sens?
Il reste quand même encore une... Enfin, c'est toujours dans le même sens, mais moi, j'ai l'impression que, justement, la Emouna, elle commence à partir du moment où, justement, on n'a pas de feedback. On dit, ok, c'est la confiance qu'on donne à Dieu, aussi bien émotionnellement qu'intellectuellement. On dit, on ne peut pas y arriver. Tout le reste, même si je n'ai pas le retour que j'attends, que ce soit émotionnellement ou intellectuellement, j'ai confiance.
Oui, oui. comme exemple, dans l'exemple que j'ai donné de la gravitation, tu sais que c'est comme ça, tu ne sais pas pourquoi. Ah, toi, tu veux dire que...
Par exemple, quand on met les téfilines, on dit, quand un juif fait une prière, on dit, ça change des choses dans le monde. Moi, je n'ai pas accès à ça. Quand le mouchoir, il tombe, je vois qu'il tombe.
Non, mais on t'a prouvé que la Torah était d'origine divine. Ouais. C'est marqué qu'en fonction, maintenant, de nos actions, on a un impact dans le monde entier. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Torah. Dans la loi orale, en tout cas, c'est marqué très, très, très clairement. Donc, de facto, c'est vrai. Et tu dis, mais je ne ressens pas, je ne vois pas. C'est vrai. Bah, je ne vois pas pourquoi maintenant le mouchoir il tombe. C'est vrai, il tombe. Ok, c'est comme ça. Il y a un rabbin ici à Jérusalem qui a... je ne connais pas bien ses écrits, mais je vais en parler une fois, je vais un peu parler. Et il voulait faire c'est un grand scientifique, il a voulu faire un rapport entre l'athlète du nom de Dieu et les quatre forces de la nature. Donc il y a quatre forces basiques dans la nature. Einstein recherchait le champ unitaire, c'est encore une loi de la nature qui permet de tout expliquer. D'accord ? Personne n'a encore trouvé cela. Les quatre lois sont, la première c'est la gravitation, après c'est la force électromagnétique, la force radioactive forte et radioactive faible. Une, elle tient le noyau ensemble, et l'autre, je crois que fait que les électrons tournent autour, enfin des choses comme ça. D'accord ? Ce sont les quatre forces. Alors, je ne me souviens plus de tout ce qu'il m'a dit. Il y a un truc qui m'est resté, je ne sais pas ce qu'il m'a dit. En tout cas, il y a un truc qui correspond. C'est certain que dans le monde mystique juif, on parle d'une des forces de Dieu qui est le din. Le din. Le din, c'est la rigueur. C'est quoi la rigueur ? Dieu, il est amour. Mais l'amour sans borne, ça balaye tout, il n'y a plus rien. Pour qu'il puisse avoir un monde, il faut qu'il y ait une justice. Il faut que, d'après un mérite, on reçoit. En cela, il y a passe à l'être. Si tout le monde a tout, tout le monde est rien, et tout le monde est tout, et il n'y a plus rien. D'accord ? Ça ne veut rien dire. Donc pour un monde, il faut mettre du din. Il faut mettre de la rigueur. C'est marqué que Dieu a voulu créer le monde avec rigueur. C'est plusieurs fois, et ça n'a pas marché. C'est ce qu'il est associé à l'attribut de miséricorde. Il faut les deux. Il y a un jeu. Et dans notre vie, en tant que jeu, on demande toujours à Dieu, je demande de se conduire avec nous, plus dans la... Récorde que dans la justice, parce que dans la rigueur, personne n'a droit à la vie. Personne ne peut, d'après la rigueur, la justice, exiger la vie. Ça me revient, rien ne nous revient, parce que tout est don. Maintenant, c'est marqué dans les bouquins mystiques. J'ai une lettre de Rabbi Chaim Vital, que je cite dans les séminaires, où il dit comment le monde était créé. Il y avait l'infini. Et Dieu a pris tout le din qu'il y avait dans tout l'infini, dans toute cette force de... Il l'a réuni à un seul endroit. Non, d'abord, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait le Tzimtzum. C'est-à-dire qu'il y a eu un rétracteur de l'infini pour laisser place à un endroit fini. Quand je dis un endroit, ce n'est pas un endroit géographique. C'est une réalité. Je parle, je ne sais pas. Il ne faut pas surtout par quoi qu'on parle d'une chose qu'on comprend. D'accord ? On parle d'exemple d'une réalité que nous ne comprenons pas. Et au centre, de nouveau, c'est un exemple, au centre de cet endroit-là, il a pris le substrat du din qu'il y avait dans l'infini, donc cette force de rigueur, il l'a mis au centre. Et après, il a pris de sa lumière infinie, il a fait descendre dans ce point, et ça remplit toute cette bulle, tout cet endroit-là, et ça a créé l'univers. Cela ressemble passablement, énormément, aux théories actuelles de création du monde. On ne sait pas ce qu'il y a avant, même pas de avant parce qu'il n'y a pas de temps. Et le temps commence avec la matière. Et comment ça commence ? Il y a un endroit, une boule, on va dire, d'accord, minuscule, de magma, ce n'est même pas de la matière, dans laquelle se trouve toute la matière du monde. Cette petite boule-là pèse le monde entier et a une température de 10 puissance 19 degrés, 10 milliards de milliards de degrés. Un point tel qu'aujourd'hui dans l'univers, il y a encore le résidu de température de chaleur du Big Bang, d'accord ? On sait que zéro absolu c'est moins de 73 et des poussières, or nulle part dans l'univers on aura une température inférieure à moins de 70, il y a 3 degrés environ. On a encore l'onde de choc du Big Bang, de cette explosion de choc. Ça, c'est l'onde des physiciens Penzias et Wilson, qui étaient des employés dans la compagnie Bell de téléphone anglais, qui ont mis leur radar, tout, ils avaient, il y avait une sorte d'émission qui était de partout, partout. En fait, ils ont découvert l'onde de choc du Big Bang. Et c'est la même chose que la température, ça marche ensemble. La température et l'onde de choc, c'est à peu près la même chose, je m'en ai suffisamment pour vous expliquer cela. Et ensuite, le prix pour cela. Donc à la base, il y a une petite boule qui pèse le monde entier. Boule, comment elle tient? Le din, force de gravitation, température de quoi elle provient? La matière en température, elle devrait éclater, ça éclate pas. C'est après qu'elle éclate de façon anormale. Là, au début, c'est réuni. Réuni ensemble à un point tel que tu prends toute la matière, tu la mets ensemble à une ébullition de 10 puissance 19. C'est terrifiant. Donc c'est une puissance de concentration, de din. Pourquoi je dis de din? Parce que din, c'est quand je dis justice, c'est quoi justice? J'ai envie de te donner, mais je retiens. Un père voit son enfant qui lui dit, papa, je veux une cinquième glace. Et son père lui dit non. Et le gosse, il fait bisous papa, et il pleure, et tout ça. Maintenant, si le père se laisse aller, bien sûr, encore une glace. Et la grand-mère qui dit, mais bien sûr, tu l'as, parce que la grand-mère, elle n'arrive pas à être digne. Mais donne-lui, ça va, c'est pas grave. Le père doit ici faire intervenir en lui la mida, l'attribut de digne, de rigueur, de cruauté. Non. Non, pour son bien. De même Dieu avec nous. Le din, c'est la faculté de retenir sa pulsion. C'est ça le din. Tes questions étaient, est-ce qu'il y a une grande relation entre la gravitation et le yetzera et le, alors, c'est certain que chez nous, yetzera et din, c'est la même chose. Parce que le din, c'est une chose qui est imparable. C'est ce qui amène tous les malheurs. Parce que tu ne mérites pas, tac, tu reçois, d'accord. On ne te donne pas de la vie, on ne te donne pas que par miséricorde. Si on est au niveau du din, il n'y a plus rien. Le monde tel qu'il est au début, c'est que din. C'est donc le substrat de tout le din que Dieu met à un petit endroit, dans l'abus. D'accord? Dans l'endroit. Et a mis une lumière, et tout à coup, tac, ça éclate. Et ça remplit le monde de lumière. Et ça, c'est le Big Bang. Un éclatement de lumière. Maintenant, c'est certain que Rabbi Hamital, quand il parle au niveau mystique, il ne parle pas de la réalité. Mais il y a un rapport entre la mystique et la réalité. L'un correspond à l'autre, c'est certain. Donc, cette chose-là, c'est fait à tous les niveaux. Donc maintenant, nous aussi, au niveau physique, on a l'écho, on a la vue peut-être. En tout cas, on a, du point de vue de l'astronomie aujourd'hui, c'est la théorie la plus en vogue, comme quoi, effectivement, ce Big Bang a bien eu lieu. Tout va et converge vers cela. Ça correspond à ce que dit la Torah. Donc oui, le din, c'est la gravitation universelle qui nous tire à pas donner, à se retenir. Alors des fois, c'est pas bien. Comme chaque chose, il y a chez nous aussi le din et le rahamim. Din, donc la rigueur et la miséricorde. Miséricorde avec ton gosse qui demande une cinquième glace, tu es un tueur. Tu es criminel. Quand tu es din avec un homme qui te demande un peu d'argent, qu'il aille travailler, tu es un tueur aussi, tu es criminel. Il faut savoir agir comment. Les deux aspects existent. À nous de savoir, alors maintenant, au niveau maintenant, par exemple, la paresse, d'accord ? La paresse, est-ce que ça vient du din ? Toujours du tout le contraire. C'est le laisser aller, c'est le hamim. Le din, c'est prendre sa force maintenant et se lever. C'est dur aller et se battre. C'est tout le contraire. Le din, c'est la maîtrise de soi totale. Donc quelqu'un, quand il est dans la lourdeur, ça c'est plutôt... Ça va du côté Rahamim. Laissez aller. Laissez couler. C'est bon?
Non, est-ce que tu dis, si à partir du moment où chaque chose maintenant, si on dit que la Emouna, ça commence à nous
idéaler de la vie. La Emouna, telle que j'ai évoqué, telle que j'ai défini maintenant, la Emouna, c'est le vécu. Quelqu'un reçoit une claque de Dieu. Il sait que c'est pour le bien, que tout vient de Dieu et tout est pour le bien. Alors comment il vit ça? Il sait que c'est pour le bien. C'est une notion très éthérée et puis il est en pleine destruction intérieure. Ou bien, ah, combien Dieu m'aime, bonheur encore. Ça, c'est Emouna.
Donc ça n'a rien à voir avec ce que je comprends pas, au contraire.
J'ai dit, j'ai bien dit, le mot émouna, d'après ma définition maintenant, c'est pas ce que je comprends pas. La émouna, c'est le vécu. Il y a la partie rationnelle, émouna, c'est la partie sentimentale, la partie relationnelle.
Alors, ils ont voulu dire, c'est comme le rêve de Brice, ça commence là où je ne comprends plus.
Alors, c'est une autre partie maintenant. Donc, comme j'expliquais, je sais maintenant que la Torah est d'origine divine, mais je ne comprends pas forcément le pourquoi de chaque détail. Mais ça, c'est un manque de connaissance. Alors, je n'ai pas besoin d'arriver à la Emouna. Parce que moi, je dis que vu qu'on a fait une démonstration sur la globalité de la Torah, que tout ce qui est englobé dans la Torah est vrai, donc maintenant, moi, j'ai compris une partie. Le reste, je dois croire que c'est vrai ou je sais que c'est vrai? Je sais que c'est vrai, je ne dois pas croire. Bon, je ne comprends pas chacun des petits détails, mais je sais que c'est vrai. Il n'y a pas de Emouna là-dedans. Aucune.
Ben non, ça même, c'est de la Emouna. L'extrapolation de ce que je sais à ce que je ne sais pas, c'est ça la Emouna aussi.
Mais ce que tu ne sais pas, tu sais que c'est vrai? Si tu sais que c'est vrai, c'est plus de la Emouna.
Donc vous revenez à ce que Emouna, c'est ce qu'on ne sait pas, justement.
Non. Je dis que dans la Torah, il n'y a aucune partie qu'on ne sait pas. Alors, on va dire, je vais m'expliquer, il y a deux savoirs. Il y a savoir qu'une chose est vraie, gravitation universelle, et comprendre chaque détail. Savoir quel est le sens de chaque chose. Que ça, dans la gravitation, je ne sais pas. Idem dans la Torah. Je sais que tout est vrai. Il y a une partie que je comprends, mais une grande partie que je ne comprends pas. Cette partie, je ne comprends pas. Je sais qu'elle est vraie? Oui. Attends, est-ce qu'on va dire, j'ai eu la émouna de la foi que c'est comme ça? Non, j'ai pas besoin de foi. Je sais que c'est vrai. Je sais que c'est comme ça qu'il faut faire. Je comprends. Ça manque de compréhension. Un manque de compréhension. Ça n'a rien à voir avec l'émouna. Rien. Émouna égale vécu. Je sais que quand je fais ça, ça agit comme ça. Est-ce que je sens ou pas? Shabbat. Shabbat, c'est marqué, Semen Olam Haba. C'est un jour de plénitude. Tu le sais. Attends, tu le vis ou tu le vis pas? Il y en a qui, c'est pour un, c'est un jour de renfler. Il y en a pour ça, c'est un jour de plénitude, de rencontre avec Dieu. Ça, c'est un vécu. Là, c'est Emouna. Emouna, c'est le vécu. C'est pas ce que je ne sais ou je ne sais pas. Une fois que je sais que tout est vrai, il n'y a plus d'Emouna. Une fois que tu sais que c'est vrai, savoir égale, c'est contraire de Emouna. Or, je sais que tout est vrai. Maintenant, j'ai un manque de connaissance sur le pourquoi de certains détails de certaines choses. Pour beaucoup de détails. Je ne dois pas être ma'amine que c'est vrai, je ne dois pas croire que c'est vrai, je sais que c'est vrai.
Et savoir, c'est pas ça, Emouna aussi?
Non. Savoir, c'est une démonstration.
Non, mais savoir, c'est... je peux savoir qu'une pierre tombe, je peux savoir que c'est Dieu qui l'a fait tomber.
Je sais maintenant, je peux prouver maintenant.
C'est que Dieu l'a fait tomber, alors ça.
Comment tu sais? Ta preuve? Par Emouna.
Mais c'est ça justement, la Emouna. Je sais qu'elle tombe. Tomber, je sais qu'elle tombe.
Non. Comment tu sais que Dieu l'a fait tomber? T'as deux façons. Ou tu crois, mais tu n'as aucune preuve. Quelqu'un peut dire, tu débloques complètement, tu dis, bon, peut-être, mais je crois.
Vrai et on le sait.
Ou bien, je peux te démontrer, ou je peux te démontrer. Je te démontre maintenant que Dieu existe par A plus B, tac, 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 tac. Et c'est comme ça que nous agissons, et comme ça qu'on doit agir. Parce que sinon, tu n'as aucun... Là, c'est marqué dans la Torah que les Néamim, c'est votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations. Quoi? Si nous, on a une croyance, et eux ont une croyance, on n'est pas mieux qu'eux. Disons qu'on on a un plus. Quoi? On n'est pas qu'une croyance. On a une démonstration rationnelle. C'est la chose la plus qu'il puisse y avoir. Il n'y a plus besoin de croire. Rambam ne dit pas qu'il faut croire. Il dit qu'il faut savoir.
Il dit bien, on est croyant, fils de croyant.
Ok, ça c'est ce que fils de croyant, croyant, fils de croyant. Ça c'est, une fois que tu sais, il y a un travail du vécu. Il y a un travail du vécu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un vécu, il faut un vécu. Mais faut quel registre on parle, du cœur ou de la tête? C'est comment ça?
Au niveau de la tête, les Grecs ils étaient arrivés jusqu'au bout presque comme nous, sauf qu'eux ils disaient Olam Kadmon, et nous on disait Boré Olam. Il y a un moment où il y a un effort de croyance qui fait que tu vas d'un côté et pas de l'autre. Quand le rationnel...
Pas chez nous. Pas chez nous.
C'est le Rambam lui-même qui dit ça.
Non. Le Rambam, il dit que Dieu se dévoile au Mont Sinaï, c'est une preuve par A plus B irréfutable. Alors, c'est une preuve ou c'est une croyance? C'est une preuve. Viens le grec, je lui dis, voilà, qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, il n'a rien à dire. Dégage. Ok, messieurs, d'autres questions? On a encore 3 minutes.
Comment appeler le Machiav? Comment une façon, il y avait une prière, mais comment on prie tous les jours pour demander quoi que ce soit, un chidour, n'importe quoi. Comment prier la venue du Machiav?
Le Machiav, tu en parles. Dans la première bracha de l'Amida, il amène le Rédempteur à ses petits-enfants avec amour. Tu en parles dans la deuxième bracha. Matzmiach Yeshua. Tu fais pousser la Yeshua. Tu en parles dans la septième bracha. Goel Israël. Tu en parles dans la Teka Beshofar Gadol Kibbutz Galuyot. Dans la je ne sais plus combien de bracha. T'en parles dans. Après, t'en parles dans. Avant de Saint-Marc David. Ashiva Shofetenu Kibreshona, Yasson Kibatrila. Donne-nous les juges comme à l'époque, les conseillers, c'est Moshe, Aaron, etc. Après, tu dis. Bon Yerushalayim. Après, Saint-Marc David. Après, Arzat Abdelkouzé revoit ton retour à Sion. Après, c'est tout. Je crois. Hein. Voilà. On en parle partout. Mais quand on en parle partout. Tikkun Hatzot. Faites Tikkun Hatzot, messieurs. Faites-le. Faites-le ici. Vous avez une semaine, après ça passe à minuit et quelques. Aujourd'hui c'est facile, t'es à minuit moins quart, t'es réveillé. 10 minutes, c'est énorme. C'est énorme, c'est des choses qu'il faut faire. Il faut l'attendre, Mashiach. Alors, mais ça, on m'a dit une fois, quand un invité doit venir chez nous, il faut l'attendre.
Il faut le croire, il faut le savoir.
Hein?
Faut croire au Mashiach ou... C'est un article de foi.
Hein? Attends, mon cher ami. Non, on sait que la Torah est vraie. Et dans la Torah, la loi orale, on parle de la venue du Mashiach. Mais il y a un travail de vécu. Je sais que c'est maintenant, moi je dois le vivre, je dois vivre avec ça. Je sais que Mashiach va venir. Ok, mais je ne pense jamais, pour moi c'est un truc. Ouais, je sais que c'est comme ça. Je dois vivre, non. Et je l'attends tous les jours. Donc il faut l'attendre. Pour l'attendre, il y a un comportement qui doit être conséquent.
Les croyants, fils de croyants, alors, comme vous avez dit au tout début du cours.
On a en nous cette étincelle de relation au niveau du vécu. On a reçu de façon essentielle un potentiel de relation très proche, de proximité intime avec la divinité.
C'est pas croyant, c'est vivant, fils de vivant.
Preuve vivant.
C'est ici du vécu.
Ouais, quel vécu? Vécu sentimental. Relation. Tu dis pas à ta femme, je suis vivant de toi. D'accord? J'ai une relation. Ok, messieurs, Baruch Adonai, l'amen va amen.